Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Je voudrais présenter aujourd'hui les écrivains francophones de Chine qui sont nombreux maintenant à être publiés, ou plutôt republiés, dans les collections de poche. Pendant longtemps, les littératures francophones sont nées et se sont développées dans les colonies ou les ex-colonies françaises. Pourtant, dès les années 1930, des écrivains d'Asie ont choisi d'écrire en français. Une romancière japonaise, son père appartenait à une très ancienne famille de samouraïs, mais sa mère était française, originaire de Lyon. Une romancière japonaise, donc, Kiku Yamata, a publié plusieurs ouvrages, des poèmes et un roman, Masako, qui est d'ailleurs repris depuis quelques années dans La Petite Vermillon, la collection de poche de la Table Ronde. Ce roman raconte un amour contrarié par l'ancienne étiquette japonaise. Il a gardé le charme délicatement exotique qu'il pouvait avoir à l'époque. Les écrivains chinois sont venus un peu plus tard. Et c'est la grande nouveauté des dernières décennies que cette floraison d'une littérature qu'on pourrait appeler maintenant chinoise de langue française. Elle est écrite par des exilés qui sont nés en Chine, où ils ont vécu toute leur enfance, leur adolescence, parfois une première partie de leur vie d'adulte. L'initiateur de ce francotropisme est François Cheng. Né dans une famille de lettrés universitaires qui avait eu la chance, grâce à une bourse, d'aller étudier aux États-Unis, François Cheng, à son tour, est sorti de Chine et il est venu en France en 1948. Il avait environ 20 ans. Ses premières années françaises ont été difficiles. Sans vraies ressources, il se concentre sur l'apprentissage de la langue du pays d'accueil et sur la découverte de la littérature française. Il enseigne aussi le chinois à l'École des hautes études en sciences sociales. Et il se consacre à la présentation aux lecteurs français de la langue, de la calligraphie, de la poésie chinoise. Et il traduit en français de nombreux poètes chinois. Et cette traduction est d'ailleurs une œuvre de création, tant est grande la distance entre les deux langues. Mais il entreprend aussi une œuvre de création personnelle en français et il publie des poèmes et des romans. Il a attendu plusieurs décennies pour oser affronter en écrivain la langue française qu'il a désormais choisi comme sienne. Mais le Grand Prix de la francophonie a couronné l'ensemble de son œuvre et il a été élu à l'Académie française en 2002 au 34e fauteuil. Il a ainsi permis à l'Asie d'être représenté dans l'illustre compagnie. François Cheng a connu un grand succès avec son roman « Le Di » de Tianyi, repris dans le livre de poche en 2001. Ce roman est centré sur le témoignage du peintre Tianyi qui a vécu dans la Chine de l'avant-guerre, encore très traditionnelle, qui a connu ensuite la misère pendant son séjour en Occident et qui revient en Chine après la Deuxième Guerre mondiale pour être broyé dans les soubresauts de la Révolution. Le prix Femina a couronné ce roman en 1998. Ce roman compose un tableau lumineux et profond de la Chine d'aujourd'hui et de sa relation à l'Occident. Un autre roman est plus original peut-être. Il s'intitule « L'éternité n'est pas de trop » et il est repris également dans le livre de poche. Ce roman propose un subtil renouvellement du mythe de Tristan et Iseut en le situant dans la Chine du XVIIe siècle, à la fin de l'époque Ming. Mais c'est peut-être dans sa poésie que François Cheng donne la pleine mesure de son talent d'écrivain. Il les a rassemblés sous ce titre magnifique « À l'Orient de tout ». Et ses poésies ont été reprises dans la collection Poésie de Gallimard. Dans ses textes, il tente, et il réussit, l'impossible, c'est-à-dire donner à voir, comme le font les idéographies ou les peintures chinoises, donner à voir le monde tel qu'il a été pensé par les philosophies taoïstes ou bouddhistes. Revenant sur son itinéraire, sur son destin, comme il dit, François Cheng définit une situation qui a été celle de tous les Chinois plus jeunes que lui, devenus écrivains de langue française. Je le cite. « Tous les Chinois, depuis deux ou trois générations, ont un double destin personnel et collectif. Depuis un siècle, pas un Chinois n'a pu échapper au drame national. Pas une famille qui n'ait connu de séparation et n'ait été impliquée dans un mouvement malgré elle. Nous portons en chacun de nous un destin collectif et nous avons l'impression de connaître de ce fait tous les destins. Je vis en France depuis 1948. Je suis retourné dans mon pays pour la première fois en 1984. Mais en réalité, je n'ai jamais quitté la Chine. Au contraire, je suis profondément lié à cette culture, à ses destins, à tous les faits historiques et humains. » Alors parmi les écrivains chinois qui sont venus après François Cheng, citons d'abord Ya Ding. Né en 1956 dans une petite ville du nord de la Chine. Après avoir été envoyé à la campagne avec ses parents pendant la révolution culturelle, il est revenu étudier à Pékin, où il a créé une revue d'étudiants. Il s'est fait traducteur de grands écrivains français, de Baudelaire à Jean-Paul Sartre. Et grâce à son travail de traducteur, il a pu obtenir un prix et une bourse, et il est arrivé à Paris avec, dans sa poche, le manuscrit d'un roman, « Le Sorgho Rouge », publié chez Grasset en 1987 et réédité dans le livre de poche. Mais le roman de Ya Ding, qui est peut-être le plus frappant, c'est son quatrième roman, intitulé « La jeune fille Tong », dans la collection Folio de Gallimard aujourd'hui. « La jeune fille Tong » raconte une histoire en forme de légende ancienne. Zé Lain, fille du chef d'un village de la vallée Tong, est visitée, j'ai mis « visitée » entre guillemets, est visitée la nuit par une ombre qui s'introduit dans sa chambre et abuse d'elle. Après chacune de ses visites, son corps se flétrit et vieillit, et ce qui pour elle est pire, la marque de vermillon sur son bras, qui, selon la tradition, doit attester sa virginité, disparaît un peu plus chaque matin. Mais Zélaïne va réagir. Elle se lance dans une longue quête initiatique pour retrouver son visiteur, qu'il soit homme ou qu'il soit démon, et elle va en tirer vengeance. Évidemment, comme les légendes, le roman se prête à beaucoup de possibilités d'interprétation symbolique. Ying Shen est une jeune femme, née à Shanghai en 1961. Elle a obtenu un diplôme du département de langue et littérature française de l'université de Fudan et elle a traduit des textes techniques pour l'Institut de recherche astronautique de Shanghai. Mais depuis 1989, elle s'est installée près de Montréal, au Québec, et elle a choisi le français comme langue d'expression. Ses premiers romans ont d'ailleurs été édités d'abord au Québec. La mémoire de l'eau de 1992, qui est maintenant en poche chez Babel Actes Sud, raconte l'histoire de Lié Fei, qui est la grand-mère de la narratrice. En 1912, on avait commencé à lui faire subir l'opération permettant de rétrécir ses pieds pour les rendre beaux comme des lotus. Mais les changements révolutionnaires du début du XXe siècle interrompent le processus. Lié Fay garde des pieds moyens, ni longs ni petits. C'est peut-être pourquoi elle aura toujours le souci de garder une voix moyenne à travers tous les bouleversements qu'a connus la société chinoise. Un autre roman de Ying Shen, Les lettres chinoises, un peu sur le modèle des lettres persanes ou des lettres péruviennes du XVIIIe siècle, Les lettres chinoises, republiées aussi chez Babel Actes Sud, retrouvent la forme traditionnelle du roman épistolaire. Dans l'échange de lettres entre un étudiant chinois exilé au Canada et sa fiancée restée en Chine, se développe une méditation grave sur l'exil et le déracinement, sur la perte de la culture, mais sur la rencontre aussi des cultures, sur l'amour et l'absence, sur la difficulté d'aimer quand on est au loin. Dai Sijie a rencontré un très grand succès avec son roman « Balzac et la petite tailleuse chinoise » paru en l'an 2000. Le roman nous fait remonter aux années 1971, en pleine révolution culturelle, dans laquelle sont plongés le narrateur et son ami Luo. Ils ont à payer un crime inexpiable. Ils appartiennent à la classe bourgeoise des intellectuels et il faut les rééduquer par le travail manuel. Mais la lecture de livres interdits par le régime, Balzac, Victor Hugo, Stendhal et quelques autres, va leur faire prendre conscience de ce qu'ils existent bien en tant qu'individus, qu'ils peuvent ressentir, s'émouvoir et aimer. Ils découvriront même que la beauté d'une femme est un trésor qui n'a pas de prix. De quoi jeter à bas tout l'édifice mental que s'employait à construire le petit livre rouge. Dans un autre roman, Le complexe de Di, réédité dans la collection Folio, lui aussi, le lecteur est invité à partager les tribulations d'un Chinois en Chine. Revenant depuis la France où il s'est exilé, revenant dans son pays après avoir été initié à la psychanalyse européenne, Muo, le héros, veut arracher sa fiancée au nom délicieusement cocasse, volcan de la vieille lune, non ironique bien sûr, donc Muo veut arracher cette fiancée aux griffes du cruel juge Di, qui l'a jeté en prison parce qu'elle a été accusée d'avoir vendu des photos à la presse étrangère. Brandissant l'étendard de la psychanalyse contre le redoutable complexe de Di, Muo parcourt une Chine en métamorphose, souvent déroutante. C'est drôlatique et en même temps assez inquiétant. Dai Sijie est maintenant devenu un cinéaste et ses films ont déjà touché un large public. Wei Wei, né en 1957 en Chine du Sud, est maintenant installé en Angleterre. Outre sa langue maternelle, le chinois, et l'anglais, la langue de son pays d'accueil, elle a gardé l'usage du français, appris à l'université chinoise. Et c'est en français qu'elle publie ses romans, dont La couleur du bonheur, La couleur du bonheur, maintenant en poche dans la collection L'Aube Poche. C'est un roman historique racontant le destin d'une femme chinoise de 1920 à nos jours, depuis son mariage forcé jusqu'à sa traversée de la révolution culturelle et son départ pour l'exil. Elle a donné aussi, aux mêmes éditions de l'Aube, un livre-témoignage terrible, Le Yangtze sacrifié. La romancière y raconte comment le gigantesque barrage des Trois Gorges, dont la construction s'achèvera en 2009, va chasser 1 200 000 habitants, engloutir des milliers d'agglomérations, de nombreux sites archéologiques et dompter le fleuve qui ne sera plus qu'un dragon vaincu par l'inhumaine technique. Né à Pékin en 1972, c'est donc la plus jeune de ces nouveaux écrivains chinois de langue française, Shan Sa a été une très bonne élève de l'enseignement secondaire chinois, dont elle a obtenu l'examen terminal. Elle a été lauréate du concours national de poésie des enfants. Mais les événements de la place Tiananmen en 1989 ont constitué pour elle, comme pour une génération d'intellectuels chinois, une rupture fondamentale, la déterminant à s'exiler. Grâce à l'obtention d'une bourse, elle a pu s'installer en France en 1990 et passer en 1992 les épreuves du baccalauréat français. De 1994 à 1996, elle a été secrétaire du peintre Balthus. Et elle commence alors à écrire dans sa langue d'accueil, le français. Son premier roman, « Porte de la paix céleste », en folio, raconte les événements de Tiananmen à travers le destin de personnages très monolithiques, rappelant au fond l'esthétique de l'opéra chinois. « Les quatre vies du Saul » propose un parcours de l'histoire chinoise de 1440 à nos jours, à travers quatre histoires indépendantes placées sous le signe d'un saule qui en assure la subtile unité. Mais c'est avec la joueuse de Go, prix Goncourt des lycéens en 2001, que Shan Sa touche un large public. L'héroïne du roman, la joueuse de Go, est une jeune lycéenne vivant au début des années 1930 à Xinjiang, aujourd'hui Changchun, capitale de la Mandchourie indépendante, entre guillemets indépendante, Mandchoukuo, comme on l'appelait à l'époque, et qui était en fait un protectorat des Japonais qui se préparait à envahir la Chine. La jeune fille a l'habitude de venir jouer des parties de Go sur la place des Mille Vents contre les adversaires qui se présentent selon la tradition locale. L'un de ceux-ci est un jeune officier japonais, travesti en chinois, comme le demande la vague mission d'espionnage qu'on lui a confiée. Quelque chose va se passer entre les deux partenaires du jeu, même si jamais ils n'échangent de paroles un peu personnelles. L'officier japonais, qui n'a jusqu'alors connu que des prostituées, s'en être comme une inclination pour cette mystérieuse jeune manchou. Celle-ci, partagée entre les sentiments que lui inspirent deux de ses camarades étudiants engagés dans la résistance à l'occupant, très surveillée par sa famille, qui prépare pour elle un mariage arrangé selon la coutume, la jeune fille se laisse prendre à la curiosité que lui inspire son partenaire. Comme dans le jeu de Go, jeu de stratégie, où il s'agit de réussir à encercler l'adversaire en posant ses pions les uns après les autres, le roman avance au coup par coup, chaque bref chapitre étant centré alternativement sur la jeune fille et sur son partenaire japonais. L'affrontement des deux joueurs renvoie nécessairement, comme en miroir, à la guerre qui se développe autour d'eux. Saisissant contraste entre le calme, la rigueur de la succession des coups que transpose l'écriture romanesque directe et tendue, et d'autre part, le déchaînement des violences et des cruautés, des scènes de torture, quand le sursaut de résistance des jeunes Manchous est maté. S'il est récit d'un combat, le roman est aussi celui d'une initiation. Douloureuse pour la jeune fille qui s'est donnée à l'un de ses amis étudiants révolutionnaires, qui se retrouve enceinte et doit chercher comment se débarrasser de ce fardeau. La froide calculatrice qu'elle était découvre l'intensité des émotions. Quant au jeune officier, il se dégage peu à peu de son éducation de samouraï, de sa carapace de jeune fanatique impérialiste. Il s'ouvre au désir de vivre. Mais la guerre entraîne les deux personnages dans l'explosion romantique de la catastrophe finale. L'officier tue la jeune fille qu'il aime, pour lui éviter de tomber entre les mains des soudards japonais. On comprend que ce beau roman de feu et de glace ait pu séduire le public des lycéens français. À ce grand texte a succédé « Impératrice », œuvre d'une grande ambition, qui fait revivre, dans la Chine de la dynastie Tang, au 7e siècle, un personnage hors du commun. La concubine de l'empereur, qui va accéder elle-même, ce qui ne s'était jamais vu, qui va accéder au titre impérial. Mais c'est aussi ce qu'on ne lui a guère pardonné, puisque les historiens, par la suite, ont déformé son histoire et oblitéré sa mémoire. Le roman se termine sur les funérailles de l'impératrice, devenue l'empereur sacré qui fait tourner la roue d'or, cérémonie d'apothéose qui l'égale aux dieux. C'est un grand roman que cette impératrice.